Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est l'heure est grave, et on se retrouve cette semaine pour bafouer ensemble plus d'un siècle d'art cinématographique avec le vulcanologue excentrique et politique venu jusqu'au Mexique pour imposer ses pensées philosophiques. Né en Union soviétique, il joue de son physique et d'une sacrée technique pour observer en public la plastique d'Angélique, Annick et même de Patrick. Raphaël, bonsoir Raphaël.
Bonsoir Gaspard, bonsoir à tous, et pourquoi dis-je bonsoir? Puisqu'il n'y a pas de temps, il n'y a que l'amour.
Avec nous également celui qui s'est toujours rêvé en actrice dominatrice, qui en coulisses userait de caprices et de sa poitrine factice pour qu'on accomplisse les plus dirty vices. Délaissant la justice et la puissance législatrice, il offre volontiers sa saucisse à 6 voire 10 petits-fils de productrice tant qu'on ne lui refile ni la syphilis ni la chaude pisse. Cyril, bonsoir Cyril.
Bonsoir à tous.
Enfin, il est LA raison pour laquelle nous sommes là ce soir, l'auteur supérieur, celui qui demeure tout simplement le meilleur, beau parleur, dragueur, il est un agitateur, un provocateur, mais également un navigateur en hauteur, et depuis son ballon planeur, place des heures à mater les tchouches des filles. Edouard, bonsoir Edouard.
Bonsoir Gaspard.
Et on se retrouve cette semaine pour parler ensuite de la suite de Citizen Kane, Orson Welles, qui n'est autre que le préquel du parrain de Coppola, se déroulant dans le même univers que La Règle du jeu de Renoir. On s'accroche bien, on retourne ensemble en 97 pour affronter le seul, l'unique, le fondamental, le phénoménal, Bernard-Henri Lévy.
Bravo.
Bernard-Henri Lévy, il est né le 5 novembre 1948 à Benissaf, en Algérie. C'est un écrivain, philosophe, romancier, essayiste, dramaturge, homme d'affaires et surtout cinéaste français ce soir. C'est le fils d'un riche entrepreneur de bois au Maroc. Hein. C'est le petit Bernard s'installe alors en 54 avec sa famille dans la contrée dangereuse de Neuilly-sur-Seine. En 1968, il intègre l'école normale supérieure de Paris où il quand même passe l'agrégation de philosophie, c'est pas rien. Dès les années suivantes, il commence alors à beaucoup voyager et à écrire sur divers sujets, comme son film. Initie alors le lancement même des nouveaux philosophes et devient également l'un des conseillers les plus proches de François Mitterrand. En 77, il publie La barbarie à visage humain, qui dénonce les menaces du totalitarisme, puis Le testament de Dieu, qui dénonce Dieu, j'imagine. Cofondateur de l'Action internationale contre la faim, BHL, comme on l'appelle désormais, continue durant les années 80 à publier des livres tout en effectuant des voyages humanitaires un peu partout où il faut faire des voyages humanitaires, c'est-à-dire en Bangladesh, en Bosnie, en Yougoslavie, bref. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la judaïté, l'identité, le sionisme, les intégrismes religieux, l'art, l'antisémitisme, l'esprit baudelairien dont il se réclame, les États-Unis et la guerre en Libye, lors de laquelle il est apparu comme une figure active, prééminente sur la scène internationale, tout comme les guerres de Yougoslavie et l'intervention russe en Ukraine. Bref, des actes, des opinions et des publications qui font l'objet alors de nombreuses controverses. Et on va revenir dessus ce soir. Bref, et surtout, le pinacle de sa vie, l'acmé, l'Olympe, c'est en 1993 lorsqu'il épouse Ariel Dombal. Et en 1997 lorsqu'il s'aventure derrière la caméra pour signer Le jour et la nuit.
Pour signer LE film. Le film. Seul, l'unique qu'il faut avoir dans une bibliothèque.
Les Frères Lumière avait écrit un jour, on fera un film pour le film. Et c'est ce film.
Exactement. Je vois dans un futur lointain un
I moment... have a dream that one day be a chill.
A man with no shirt. A nice silver hair.
Alors attends, tu abordes tout de suite les caractéristiques physiques oui. de BHL. Est-ce que tu peux rapidement, Raph, nous dire ce que tu penses déjà peut-être de BHL et de son interprétation au cinéma par le grand, l'unique, le seul, le phénoménal Alain Delon.
Alors ça va être un épisode un petit peu particulier parce qu'il va y avoir énormément de choses à dire, et je vais d'abord laisser parler nos invités là-dessus. Mais pour resituer, donc on a BHL qui est une personne qui tu nous as fait une biographie qui était 100% objective.
À ça, ne pas quand même... à ne pas confondre surtout avec le truc qui livre des colis un peu oui. partout dans le monde. Ça n'est pas lui. Hein.
Ah, même si en un sens BHL c'est quand même l'intérêt de l'humanitaire. Il est allé partout où il fallait pour.
Heureusement qu'il est là.
Heureusement qu'il est là quand même. Donc on va avoir quand même. Tu nous as fait une biographie, ce que je disais, qui est vraiment objective. Donc là on va pouvoir à partir de maintenant être 100% subjectif et dire que BHL est un énorme enculé. Non mais plus simplement, cet homme est extrêmement controversé pour de nombreuses raisons.
Sur la page Wikipédia, au bout de trois lignes, il y a marqué « Maintenant, on arrête d'être objectif. Hein. »
Non, c'est un trou de balle comme on en fait rarement. Mais on va pouvoir développer pourquoi il a été un particulier trou de balle à travers ce film. Et je vais me tourner du coup vers nos invités. Edouard, qu'est-ce que tu as pensé de ce film?
En fait, je m'attendais tellement au pire film de tous les temps comme l'avait annoncé le cahier des cinémas. Enfin, pire film français de tous les temps, selon le cahier des cinémas.
Je me permets d'en glisser une, moi, également. C'est-à-dire que c'est un film sur lequel la critique s'est fait plaisir comme jamais. En effet, les Cahiers du cinéma ont dit que c'était le pire film depuis 1945, voilà. Et Claude Chabrol a dit que c'était le pire film qu'il ait jamais vu de sa vie.
Voilà. Alors qu'il me semble que Chabrol est pote en plus avec BHL à la base.
Il dit qu'il, franchement, il trouve que c'est pas un mec méchant et tout, il l'aime bien, mais il dit que c'est une horreur.
Je me permettrais juste de citer à ce moment-là Imer Kusturica qui disait sur France 2 avoir repris sa carrière après la projection du film. J'ai changé d'avis en voyant les dommages que Bernard-Henri Lévy pouvait causer au monde du cinéma. Je me suis dit, tu dois y retourner, tu peux pas laisser faire ça.
Mais voilà, donc avec un tel savoir sur ce film, en fait, je m'attendais tellement à une horreur que presque j'ai trouvé que c'était un bon film. Non, bien sûr, j'exagère totalement, c'est complètement raté, mais en fait, ça l'est tellement moins que ce à quoi je m'attendais que bon, je me suis un peu ennuyé, mais c'était pas si pire.
Et toi, Cyril ?
Moi, je connaissais BHL pour un peu tout ce qu'il avait fait, mais j'avais jamais vu ce film. Je l'ai vu pour préparer cette émission.
Et c'est bien, c'est le seul prérequis, c'est bien.
C'est BHL le touche à tout, et une fois de plus, il a montré qu'il savait.
Ah, il était pas à Lyon.
Choses.
Il était pas à Lyon. Ok.
Mais qu'il n'est pas Midas qui veut. Et malheureusement, pas le cas avec le cinéma pour BHL.
C'est absolument une horreur, je pense qu'on peut le dire. Moi, je pense que bon, un truc qui est toujours marrant, c'est de se moquer des nanars qui sont des films qui sont outrageusement mauvais. Mais à la limite, ça te permet, en fait, une fois que t'as vu celui-là, de rehausser les autres où tu dis, les pauvres, ils ont été mauvais, mais ils ont pas fait exprès. Ce film-là, c'est 2 heures d'égocentrisme et de ton père a mis les étoiles dans les yeux de ta mère pour que tu sois si belle. C'est affreux de nombrilisme et de penser à la mort moelle-neu pendant 2 heures. Et surtout, je vais me permettre de citer tout de suite, parce que je pense qu'on a fait tous les mêmes recherches, Nanarland, qui ouvrait son article en disant une formule que je trouve merveilleuse et qui correspond parfaitement à ce film, c'est imaginez lorsque le premier de la classe a dit une réponse si bête que la prof, pour la première fois, lui a dit t'es un gros con. Et ben, c'est exactement ça pendant 2 heures, ce film. C'est un pur bonheur de voir ce type, mais s'écrouler dans la fange, c'est... On a envie d'aimer le cinéma après ça parce que c'est tellement mauvais qu'on ne peut être que au-dessus.
Bah alors, ouais, bah du coup, si je terminerai sur mon avis. Alors, moi, déjà, un peu ce qui est étrange, c'est que j'ai eu une érection pendant tout le truc parce que j'avais l'impression de voir un film érotique NT1.
Ouais. Que le petit triangle rose en bas à gauche.
Exactement. On y était en plein dedans, donc c'était quand même très, très troublant pour moi. Mais bon, je pense que vous avez un peu dit le fond, c'est-à-dire que c'est objectivement nul à Yesh. Ça n'est que 2 heures pendant lesquelles Bernard-Henri Lévy se la pète, veut montrer qu'il se la pète et il se la pète, il se la pète, il se la pète, et c'est nul. Mais c'est vrai ce que tu dis, Edouard, finalement, que on l'a tellement vendu comme le truc au-dessus duquel il n'y a rien, que, alors évidemment, il n'y a rien au-dessus parce que c'est juste nul, c'est le vide, c'est le néant. Mais c'est vrai qu'il y a certains moments juste où c'est plaisant de voir un truc aussi mauvais. Le seul problème, en effet, c'est que comme il se la pète, c'est mauvais pour les mauvaises raisons. Alors qu'un film qui est nul, comme tu disais sur Nanarland, où ils sont spécialistes de ça, il n'y a pas de problème parce que tu te marres. Là, tu te marres pas parce que le mec, tu sais qu'il y pense sincèrement, quoi.
C'est pas The Room qui est vraiment considéré peut-être comme le pire film de tous les temps, sauf que The Room, en fait, quand tu le regardes, tu sais que le mec, il a vraiment, tu sais, il a genre envie de cinoche derrière, il a envie d'un grand truc où il se passe plein de trucs. Là, il a juste envie de se pougner la nouille devant nous pour qu'on lui dise que c'est un génie, parce que, bon, je me permets peut-être de rapidement faire un pitch du film. C'est quand même l'histoire plus ou moins d'un écrivain isolé qui a fait un grand chef-d'œuvre, qui est joué par Alain Delon, et en fait, c'est une sorte de double de BHL.
Ça vous rappelle quelqu'un? Eh bien non, puisque BHL n'a jamais fait de grand chef-d'œuvre. Voilà. Donc là, c'est plutôt simple.
Il y a une autre différence, c'est que Alain Delon ouvre sa chemise jusqu'au 4e bouton.
Oui,
alors
c'est
vrai. Que BHL, c'est que le 3e.
Ouais. Alors, il y a un moment où vraiment Alain Delon, il fait, il goes all in, il a plus de chemise.
C'est merveilleux, ça.
C'est une des premières scènes sur la plage.
Ah, bah oui, on va revenir dessus. Mais je pense que maintenant qu'on a un peu tous fait le tour, c'est le moment d'attaquer la bête.
S'ouvre sur Raoul Filippi, a.k.a. Carl Zero, qui débarque au Mexique avec son actrice fétiche, Laure, a.k.a. Ariel Dombal.
Est-ce qu'on peut déjà mettre un buzzer sur idée de génie, quoi?
Alors,
Carl Zero, acteur.
Je vous propose qu'on ait, tu sais, comme la France a un incroyable talent, 3 croix rouges.
Alors,
il arrive avec Carl Zero, il arrive avec Ariel Dombal, il arrive au Mexique, c'est terminé.
Alors, au début, du coup, voilà, sur un montage, on peut en parler parce qu'on en parlait peut-être tout à l'heure hors antenne, les 5 premières minutes sont sans dialogue. En fait, c'est une sorte de montage un peu burlesque,
ouais,
mais qui en revanche sont bourrés d'effets de bruitage. Donc, c'est produit un effet où on a l'impression que c'est un film qui n'est pas fini. Et en fait, c'est Ariel Dombal et Carl Zero qui débarquent au Mexique et qui n'arrêtent pas de se chamailler parce qu'ils trouvent pas la route. Mais c'est un pays quand même très violent parce que, genre, il y a des combats de rue qui sont organisés sans raison.
Oui, c'est une image du Mexique qui est tout à fait
digne de BHL, quoi.
C'est ça, c'est-à-dire BHL qui débarque dans un pays étranger et forcément la racaille qui se tape dessus, heureusement que lui arrive.
Et c'est absolument ridicule parce que, bon, Ariel Dombal, elle arrête pas de faire. C'est compliqué d'être une jolie fille au Mexique avec vous, producteur, qui êtes un peu ronchon.
Je trouve qu'elle se fait très peu harceler sexuellement, bizarrement. Alors, il y aura une tentative de viol, on en parlera, mais par les autochtones, ils sont relativement calmes avec la señorita, comme ils l'appellent.
En effet, ils traversent ce pays violent et pauvre, hein, je les cite, pour retrouver un écrivain français célèbre qui s'est alors exilé pour vivre, je cite à nouveau, hors circuit. Ils ont rendez-vous avec un certain Alexandre.
Il n'a pas de nom, d'ailleurs.
Bah, il s'appelle Alexandre. On apprend qu'il s'appelle Alexandre.
Alexandre D.
On l'apprendra un peu plus loin. Gabriel Harlem pour obtenir les droits d'adaptation au cinéma de son premier roman, qui est apparemment une histoire d'amour tragique. Et lorsqu'ils arrivent enfin dans la maison d'Alexandre, Edouard, ils ont une petite surprise parce qu'il n'est pas là pour les accueillir. Où est-ce qu'il est, Alexandre ?
Il est dans son endroit préféré puisque, attends, je cite, « On est mieux dans le ciel que sur la terre. » Il est dans une montgolfière en train de faire un petit voyage en battant totalement les couilles de ses invités et il se barre.
Il regarde le Mexique qui est son royaume, en fait,
concrètement.
Et il va pisser sur les autochtones. Ils comprennent rien, c'est con. Ils pensent pas lever les yeux. Pour eux, ils comprennent pas. Je suis un dieu pour eux.
Ça fait quoi? Ça fait 6 minutes et tu t'es déjà passé 5 fois pour y croire en voyant ce truc. Donc ça commence quand même avec cette image en plus. Genre, tellement tu vois, c'est ça qui est drôle, l'intention de BHL derrière de se dire: je viens de te créer une métaphore absolument extraordinaire pour cet homme qui vit au-dessus de la meute.
Et donc, puis c'est naze, une montgolfière.
Oui, c'est ça. C'est nul.
Tu vois, c'est pas comme si, alors dans une montgolfière, tu fais pff, ça monte et après
non,
ça redescend. Voilà. Et au moins un avion, le mec, il aurait eu des skis. C'est pas. Non, son truc à lui, c'est il tire sur une corde et il monte. Et
donc,
c'est tout.
On l'a pas dit, Alexandre, c'est Alain Delon, ouais, qui n'a pas de casquette, mais il a, tu sais, les trucs des mecs qui jouent à Roland Garros. Ouais.
Il a la même casquette que mon arrière-grande-tante. Okay. Vraiment la même.
Est-ce qu'elle avait des Nike?
Elle a des Nike.
Elle a des Nike.
Ouais. Est-ce que ton arrière-grande-tante a joué dans Le Guépard et Rocco et ses frères?
Oui.
Bah, ton arrière-grande-tante
elle
est Alain Delon, j'en suis sûr.
Oh, damn!
En attendant, Laure, donc, qui est jouée par Ariel Dombal, traîne dans la maison et surprend un couple en train de faire l'amour, la porte ouverte et les fenêtres ouvertes et en plein milieu de la baraque.
Et on continue sur les petits bruitages avec cette scène-là, puisque toute la première partie, là où il n'y a pas de parole dans la voiture avec leur arrivée au Mexique, on entend des petits bruitages, je sais pas, là, film d'horreur, une espèce de plaque d'aluminium qu'on fait vibrer qui fait...
Pousse la voiture, et quand... cabron.
Et quand Ariel Dombal découvre ça, t'as ce même mourir un petit peu, tu te demandes mais que se passe-t-il? Est-ce que c'est un film fantastique? Ariel Dombal existe-t-elle? c'est un film érotique.
Il y a deux choses tout au long du film, c'est une musique qui est censée te faire peur, qui arrive par moment, mais on comprend pas vraiment pourquoi.
Bah, Maurice Jarre quand même. Ouais, Academy Award winner, Maurice Jarre.
Ouais, non, c'est pas de la merde.
C'est pas pour ce film manifestement. Et deuxième chose, c'est alors Ariel Dombal ne se fait pas harceler sexuellement, mais il y a une omniprésence tout au long du film de scènes de quasi-nudité pour les femmes. Bah, franchement, toutes les 5-10 minutes, il y a une femme à poil.
Et on peut le dire, toutes les femmes, puisqu'on reprend le fait que Alexandre est censé être BHL dans ce film, toutes les femmes n'ont qu'une envie, c'est de sucer la bite de Delon, quoi.
Mais, pas encore, mais en tout cas, elles ont qu'une envie, c'est de se mettre à poil devant la caméra de BHL.
Oui,
sans raison, elles se mettent à poil. Et en effet, on dit ça, pourquoi? Parce qu'on apprend surtout qu'en fait, le couple qui est en train de coucher, on l'apprendra un peu plus tard, mais on peut le dire maintenant, en réalité, c'est la femme d'Alain Delon, donc, qui s'appelle Alexandre. Ariane, qui
et
est
son
en train
amant.
De coucher avec son amant, Carlo, le vulcanologue spécialiste en sismologie. Non mais qui vit là, tu sais pas pourquoi il vit ici en fait.
Elle lui dit, j'ai envie.
À aucun moment sa présence est justifiée. Juste, je suis vulcanologue spécialiste en sismologie.
On te dit juste que c'est un pote, mais voilà.
Mais il a 30 ans.
C'est un pote de la femme,
mais
c'est un pote de la femme, c'est tout.
Et la femme lui fait quand même, j'ai envie de toi. Il fait, chut, écoute le tremblement de terre, c'est magnifique.
Oui.
Mais non.
Et du coup, Laure et Philippi sont ensuite reçus par Sonia, une amie d'Alexandre, en fait, qui sert un peu de femme qui gère un peu toute la maison. Et elle leur indique leur chambre. Et donc, installée dans sa chambre, Laure, qu'est-ce qu'elle décide de faire, Raphaël? Maintenant qu'elle est dans cette maison depuis 20 minutes, des gens qu'elle ne connaît pas.
Je vais me mettre nue.
Devant la fenêtre grande ouverte.
Mais c'est là que l'air est le plus frais.
Elle se voit se foutre au balcon, qui en plus t'as compris qu'elle s'est donnée sur le petit patio dans lequel genre tout
il y a tous les Mexicains qui travaillent
et genre c'est comme si elle se mettait en face de toi et d'un coup elle se fout à poil, elle commence à se caresser les seins et qui les mate, qui la mate depuis
il y a encore la femme du patron qui se touche à la fenêtre. Tu veux fermer ta fenêtre, connasse? Je travaille ici, hein, pour toi c'est les vacances mais moi c'est mon travail tous les jours, connasse.
En effet, elle se fait reluquer depuis la montgolfière avec une longue vue par Alexandre, le grand écrivain.
Il est temps que je descende.
En effet, il s'est mis à l'aise là-haut. Alexandre décide d'atterrir. Et enfin, Edouard, il va à la rencontre de ses invités, non?
Il va à la rencontre de ses invités. Et au moment justement où il voit Laure, eh bien, il fait ce que tout le monde fait dès que tu rencontres quelqu'un que t'as jamais vu. Tu te fous à poil. Bon, j'exagère. Il enlève juste sa chemise. Et il lui offre pour qu'elle se protège du soleil. Car le soleil du Mexique est sans pitié.
Mais tu sais que tu le fais très très bien. Alors, vas-y, moi je peux essayer de faire Ariel Dombal.
Moi j'aime le soleil. C'est quand même ce qu'elle répond.
Alexandre, ce que j'aime, c'est le soleil et votre poésie. Et voilà. Avec ses grosses lèvres.
Et en effet, on sent une grosse tension, Cyril, sexuelle entre eux, non?
Dès le début.
On a un peu la sensation qu'ils se sont déjà vus.
Bah, elle le dit. Mystère. Il fait, ça n'a pas changé depuis 10 ans. Elle le dit face à lui et lui ne relève pas, quoi.
Mais lui, il est un peu con.
Oui, 10 ans, oui.
Sa femme, elle baise avec un autre mec, la porte ouverte et il le voit pas.
Ah, Carlo, mon ami, tu étais dans la même chambre que ma femme. Elle est drôlement mouillée, dis donc, qu'est-ce qui se passe?
Moi, il a parlé sismologie. Ça lui plaît beaucoup, tu sais. Mais moi, il y a un truc qui m'a vraiment fait rire sur cette scène qui est tout con, mais c'est donc Raoul Philippi, le producteur, juste après que Alexandre donne sa chemise à, ou c'est juste avant peut-être, donne sa chemise à Laure, et on voit que Raoul Philippi est là et dit, ah, tenez, j'ai un cadeau pour vous. Et en fait, il ouvre le cadeau et il le tend.
Il l'ouvre lui-même.
Le tend, Alexandre. Ouais. Il l'ouvre lui-même, il le fait tomber, il le ramasse, il l'ouvre, et c'est des gants de boxe, oui, qui serviront d'ailleurs plus tard.
Mais, oui, mais c'est quand même bien au Mexique, c'est ce qu'on par appelle... plus 30 degrés d'amener les gants de boxe, quand même.
Ce qu'on appelle la préparation de paiement, faut faire un peu de cinéma, mais
le fusil de Tchekhov.
Exactement.
Si je peux me permettre. Ah bah ce soir on n'est pas n'importe où. On en pense de BHL.
Comment ce que je préfère dans le film, puisque pendant ce temps-là, à Veracruz, on comprend alors que toute la population en fait locale dans ce petit coin du Mexique, en plus d'être la proie de violences absolument injustifiées, de tremblements de terre,
et de devoir abmater les seins de la meuf de Alexandre tous les jours en allant travailler à la hacienda,
a surtout les dents contre un certain Cristobal d'ailleurs, qui peut le battre, un ancien communiste espagnol devenu une sorte de voyou notoire qui en fait exproprie un peu tout le monde dans le coin.
Un colon.
Exactement, oui. Un Christophe qui est protégé par Alexandre et par Laura d'Alexandre.
Mais j'adore parce qu'il montre une scène pour montrer qu'il est très méchant, Cristobal. T'as ses hommes de main. T'as ses hommes de main qui viennent casser la gueule à un mec. Et après, t'as le mec vient vers le fils du gars en lui disant et maintenant c'est exproprié. Et l'autre, il fait c'est vrai. Non, je vais te casser la gueule à ton père pour le plaisir, enculé.
Et putain, on le verra, genre, il tire sur les crabes.
Oui, alors, mais et il vide le chargeur sur le crabe. Oui. Alors que c'est un pistolet où t'as 6 balles, t'sais, c'est avec les cartouches comme ça, qui se tourne, le revolver, ça se tourne.
Il
tire 12 balles. Mm. Il tire 12 cristobal. Mm.
Les Mexicains veulent absolument sa peau et ils semblent être en contact d'ailleurs avec Carlo, donc hein, le vulcanologue révolutionnaire. Et on découvre alors ces fameux, moi j'en ai compté 4, mais ils sont peut-être 5 ou 6 finalement, Mexicains qui se préparent à une attaque. Spoiler alert, ouais, qui vont mettre 1h40 se préparer à l'attaque.
C'est-à-dire que vraiment, ça coupe sur eux et là ça fait ta 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 ta. Tu vois courir, prendre des guns, charger des guns. Waouh, il y a une attaque qui va se passer. Et après, il s'assoit, il mange. Et ils vont faire ça 12 fois.
En fait, t'as la musique à la Carpenter. Tu penses que ça part en mode assaut? Oui. Pas du tout.
Ils vont prendre d'assaut l'hacienda. Non.
Ils vont voir 40 personnes.
Ils vont
une personne, ils leur tournent un papier, ils lui donnent un gun. Après, ils lui donnent une amulette. Et puis, ils vont dans une pyramide. Ils vont récupérer un truc. Et à la fin, ils vont enfin attaquer le truc. Mais ça sera à 1h50, tu vois.
Et en fait, non, ils vont juste servir un gâteau.
Oh, c'est bon, en fait.
Mais le truc qui est marrant, en fait, c'est qu'on s'en rend compte à la fin de la projection, hein, mais on peut déjà le dire. En fait, c'est un film qui se passe sur 48 heures. Oui, d'où le titre, en fait, Le jour et la nuit.
Bah, ouais,
et
c'est 24 heures, même.
Oui, mais sauf que bon, t'as l'impression que ça dure une éternité.
Ah oui. Et bref, une très très longue journée, une très très longue nuit. Hein.
Si je peux me permettre, juste sur le temps, de citer un des critiques qui disait: je suis allé à la séance de 18 heures, 2 heures plus tard, j'ai regardé ma montre, il était 18h20.
Tout le monde se retrouve alors, j'allais dire le lendemain, mais non, quelques minutes après, pour le déjeuner dans le jardin. Alexandre n'écoute absolument rien des flatteries que lui fait donc Raoul Philippi, le producteur. Surtout, il bouffe du regard Laure, qui devient en fait la proie et l'objet de tous ses fantasmes, face à sa femme, Ariane, qui est totalement folle de jalousie.
Quand soudain, qu'est-ce qui se passe?
Une fucking guêpe, man,
qui pique Laure. Il y a une guêpe qui a piqué Laure.
Vite, amenez-la dans mon bureau. T'as tout le monde qui se lève, qui a... regardez, elle a piqué et tout. C'est vraiment, t'as les Mexicains qui vont, attention, elle a piqué, c'est la guêpe. Aïe, aïe, aïe.
Si je peux me permettre, qu'il y a la meilleure phrase, c'est emmenez-la dans mon bureau et faites du café.
Oui, faites du café comme si ça allait résoudre le truc. Cette connasse de guêpe ne résistera pas à une bonne tasse de Nespresso.
Et une fois qu'elle arrive dans le bureau, t'as Sonia qui arrive, l'air de rien, en silence, qui lui dit: vous ne savez pas quelle chance vous avez, personne ne rentre dans ce bureau normalement.
Tout le monde rentre dans le bureau.
Ce serait trop bien qu'elle lui réponde.
Mais Alexandre n'aime pas qu'on rentre dans son bureau.
Oui, Alexandre n'aime pas ça.
Non.
Ah, c'est Seigneur, allez.
Ça serait très bien, c'est Sonia, elle lui dit: vous avez de la chance, personne ne rentre dans ce bureau. Et elle lui fait: mais t'es con, je vais me faire piquer par une game, j'ai super mal.
Sauf que du coup, en fait, on voit que Laure, elle est totalement sous le charme. Et surtout, il y a un truc qui me fait très rire, c'est qu'en fait, le film est une succession de petits tableaux où pendant 2 minutes, comme tu disais tout à l'heure, Edouard, en fait, c'est des personnes qui ont des monologues sur l'amour, l'amitié, la fraternité.
Et des monologues qui ne vont pas ensemble.
Non, c'est ça. C'est genre, s'ils pouvaient respirer l'odeur de leur propre proutre, il le ferait. Et surtout, m'a dit qu'on apprend à ce moment-là, c'est qu'il a toujours pas compris que sa femme le fait cocu, Alexandre, alors que sa femme, je répète, baise la porte ouverte dans sa propre maison avec un autre homme.
Et à table, met la main de Carlo dans son entrejambe alors qu'elle a son mari juste à côté de lui, enfin d'elle.
Oui, non, ce mec est clairement aveugle. On sent qu'il a abandonné la vie.
En ville, alors, le lendemain, mais alors, nous, j'ai envie de dire le lendemain, mais non, en fait, c'est 20 minutes après, ce film n'a pas de sens. On retrouve folklore qu'il y a avec Raoul Philippi.
Ça va mieux cette guêpe? Ah oui, vraiment, mais c'était affreux.
Vont visiter une église et alors là, Laure, elle croise le regard d'un prêtre et je la cite. Ah là, il n'a pas l'air comme tous les prêtres. Il a un regard de bandit. Philippi lui répond. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute?
Qui est la seule bonne réaction. On peut le dire, Carl Zero qui est complètement aux fraises, le mec.
Parce que, est-ce qu'on l'a suffisamment dit que c'était le pire rôle qu'on a jamais vu au cinéma, Carl Zero, quand même? Parce que c'est un mauvais de finesse, quoi. Enfin, je sais même pas, c'est un mauvais. C'est tout.
Non, mais c'est-à-dire que les autres.
J'ai jamais vu ça.
Ah, les autres, ils avaient pris de la beuh, mais lui, il avait pris de la kétamine, quoi.
Ah, non, mais
il était dans un état incroyable.
Mais en effet, elle a le regard perçant, Laure, parce qu'on apprendra quelques temps après que ce prête main forte aux 4 ou 5 Mexicains révolutionnaires. Mais quelques minutes après, Alexandre, il a envie de rassembler tout ce petit monde et il leur paye alors une petite sortie en montgolfière.
Le lecteur peut supposer que c'est à dessein que ce jour-là il ne tua pas Mathilde et se contenta de la blesser à l'épaule. Sans doute s'offrait-il ainsi l'illusion qu'un jour ou l'autre, elle lui reviendrait.
Qu'il serait plus convenable que tu montes avec ton mari.
Et depuis quand tu te préoccupes de ce qui est convenable et de ce qui ne l'est pas?
On a eu une conversation bizarre tout à l'heure, je t'expliquerai.
C'est toi qui es bizarre aujourd'hui.
Où est Monsieur Philippi? Monsieur Philippi!
J'arrive!
Pardon?
Oui, plutôt confiant, d'énormes besoins d'argent. Oh, il ne peut pas refuser la proposition que nous lui faisons. Hein. Entendu, je vous rappelle. Sonia, vous êtes resplendissante, mais je vous abandonne. Je dois rejoindre notre ami.
Nous avons à parler à faire.
Oh non, 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 montez donc avec moi et laissez Alexandre à ses femmes.
Et nous nous retrouvons dans les airs, puisque tous les invités et ce cher Alain Delon ont pris un petit temps en montgolfière. Et une succession de scènes absolument incompréhensibles, puisque t'as que des gros plans sur chaque personnage qui sort une réplique les uns après les autres. Tu sais pas qui parle à qui dit quoi, de quand, de où. C'est juste, bon, voilà, une succession de répliques, on ne comprend rien.
T'as vu la maison là-bas? Il y a plein de meufs à poil, j'y vais souvent.
Moi, ce que j'adore, c'est quand même la vieille métaphore, il commence à dire, tu sais, avec les grands ballons, on peut aller, on peut monter, on peut descendre, mais on peut pas aller à gauche, à droite. À base de genre on se laisse guider par la vie. on peut rien faire.
Non, mais c'est absolument affreux parce que t'as tout ce truc de il se la pète avec ses ballons à la con, il a l'impression de faire vivre ça alors que
sa femme s'en fout, franchement.
Sa femme,
tout le monde s'en fout. Personne n'en a rien à branler.
C'est-à-dire que Carlo s'en fout pas parce que Carlo il se dit genre hey, Carlo, ma petite là.
Très bien pour la mécanologie.
D'accord, mais lui il s'en branle d'être sur un putain de ballon, quoi. Il y a que Laure et il y a que Laure et Alexandre qui sont contents. Tous les autres ils font la gueule sur le putain de ballon.
Alors qu'ils sont pas ensemble. C'est en fait c'est quand même 4 ballons séparés. Avec des duos qui ne vont pas ensemble.
Mais ça, c'est une question, effectivement. C'est là que BHL s'est dit, il faut que je fasse un film plus long prévu. 1h15, ça peut pas suffire. Il peut pas mettre Alexandre et Laure dans le même ballon. Et donc, Alexandre dit alors, va avec Carlo, je t'en prie, bien sûr.
Il a lu, tu sais, les bibles de scénaristes en mode genre, confrontez vos personnages. Bah, je vais les mettre dans une montgolfière.
Non,
écoute, Bernard, tu peux les confronter. Attends. Sur d'autres sujets. Il peut avoir des enjeux qui peuvent s'opposer. Bah, ils peuvent vouloir monter, l'autre veut descendre. Non,
ils peuvent aller à gauche, à droite.
Comment t'expliquer?
Parce que tu sais que dans une montgolfière, on peut monter, descendre, mais pas aller à gauche, à droite.
Ça, je le sais, Bernard, mais ça n'écrit pas un scénario. Et quand on part en financement, c'est moi qui vous le dis.
Mettons un orage. C'est confronter ces personnages. Il met Laure et un random mexicain. Ah, ça, c'est donne mes personnages. Faut qu'ils voient leurs enjeux qui se croisent, non?
Avec Cristobal. Bref, ils réatterrissent tous, en fait, avec les ballons. Ouais. Sauf qu'ils atterrissent pas au même endroit. Mais et oui. Laure et Carlo,
ils ont dérivé.
De manière un peu plus esselée. Et à ce moment-là, Carlo en profite pour se jeter sur la belle Laure.
Non, il tente le move de compter les épaules.
Ah oui,
une épaule, deux épaules, trois épaules, et je te touche la chatte. Voilà.
Et le filtre d'amour. Attention,
oui. Ah,
la réplique, je m'en rappelle.
Oui, je l'ai plus non plus, mais
comment ils font les filtres d'amour avec de vieux.
Ah oui, mais il m'a profité ses compétences de vulcanologue, enfin, et il nous explique que
la lave de volcan servait pour fabriquer des filtres d'amour.
Fait-il que nous faisons des filtres d'amour avec de la lave? Est-ce que vous pouvez arrêter de me regarder, s'il vous plaît? Vous êtes extraordinairement avec votre tête dégueulasse d'un vulcanologue, un gars con. Personne ne peut vous trouver sexy, vous êtes gros et moche.
En tout cas, il drague lourdement Laure et évidemment se tape un bon gros râteau. Sauf que Alexandre rentre en voiture ensuite avec Carlo, parce que et nous, il faut confronter les personnages. Et ce dernier tente un énorme coup de bluff puisqu'il fait croire à tout le monde que c'est l'or qui s'est jeté sur lui.
Ah la salope!
Exactement. Hein. Alexandre.
Et ce con Alexandre qui lui, en fait,
il... Non mais Alexandre, il
croit! Alexandre le croit et le répète après!
Donc, il tombe absolument dans le panneau, il peut pas du tout masquer sa jalousie, et de retour à la maison, alors, évidemment, bah, il enlève sa chemise.
Je suis en colère!
Et alors, il commence une séquence qui est extraordinaire, c'est qu'il va se mettre à picoler devant tout le monde, tout en monologuant sur l'amour, la fierté, l'amitié, etc. Ariane, sa femme, elle ne supporte plus la situation, et elle comprend que Laure fait tourner la tête, bah, de, non seulement de son mari, mais également de son amant. Et alors, il y a une séquence qui se retrouve quelques secondes après où, bah, va savoir pourquoi Laure, elle a pris une douche en même temps qu'Ariane et elle se retrouve en serviette toutes les deux dans une chambre. Et qu'est-ce qu'elles font, Cyril?
Ben, on se croirait un peu, tu sais, à Fort Boyard dans la cellule où t'as la lutteuse qui est dans une espèce de boue et elles se battent en fait.
Et ils envoient.
C'est juste con, tu vois.
Ils envoient que les meufs.
La clé du cœur d'Alexandre. Ouais. On envoie que les meufs et les deux meufs se battent. Non, et ça se crêpe le chignon. Ça
s'arrache leurs serviettes.
Ça s'arrache les serviettes.
Ça se claque les boobs.
Ils sont à poil tous les deux. Non, mais t'as tout ce truc qui est genre 100% un délire érotique de ce mec, genre, ah, je vais faire ma femme avec une super bonne et elle va se pousser
tout
le temps pour moi.
Les meufs se foutent à poil.
Mais BHL devait juste se branler derrière sa caméra comme un bon gros pervers.
T'as filmé là? On va refaire une autre quand même, histoire d'être sûr.
Au montage, il s'enfermait dans la cabine tout seul.
Ça m'est quand même très mal à l'aise.
C'est pour ça que c'est si mal monté.
Exactement, il n'y a absolument aucune justification en fait qu'elle se retrouve nue. On se retrouve alors pendant ce temps-là avec nos quatre mexicains. Qui attendent, alors ils sont dans un bar. Ils attendent pour attaquer Cristobal.
Oui, putain, et le bar en plus, ça, ils entrent dans la caméra, entre dans le bar sur cliché mexicanos numéro 12. Oui. Ça se bat en criant aïe aïe aïe, Mexico. T'as littéralement un mec qui fait un shot de tequila. Ensuite, t'as un autre qui lui casse une cruche sur la tête. Et le mec, il a tu sais, son sombrero énorme.
Il y a Zorro derrière.
Non, mais c'est absolument ridicule parce que il est assis. Son sombrero est tellement gros que tu peux pas avoir à droite ou à sa gauche. Personne n'est assis.
Exactement.
Donc le mec est assis avec son énorme sombrero, il se fait casser un truc sur la gueule.
Il savait pas que c'était mexicain le quartier maintenant.
Ol del Paso.
Sauf que là, il y a le meilleur truc du monde, c'est qu'ils attendent dans le bar en pointant des photos de Cristobal qui se passent les uns après les autres dans la main. Donc ils sont là et puis ils font. Ça, c'est Cristobal.
En fait, ils sont en train de réviser pour l'enlèvement. Tu vois, c'est lui, il comprend, hein, d'accord.
Qui tu le reconnais ou pas?
Lui, ah oui, c'est vrai.
Spoiler alert, tu auras pas d'enlèvement. Ah, je trouve ça dingue que le mec a filmé son film, enfin il a tout fait, il sait qu'il aura pas la scène d'enlèvement, mais il continue de monter ses scènes en mode genre crescendo de dingue.
Ce qui est absolument débile, c'est que tu vois pour nous, parce que en plus en parallèle du film, tu as de temps en temps des extraits de la radio où on nous dit qu'il y a un tremblement de terre et un volcan qui se réveille, là, ça va même pourrir au bout d'un moment le son. Et donc ces passages-là sont en espagnol traduits en français en dessous, enfin en sous-titres français. Mais les Espagnols, pour montrer que, enfin pour toute la construction de l'enlèvement, il y a pas une seule fois où il les fait parler.
Non,
du coup c'est que avec des lettres. Genre, bonjour, enfin, je suis une méchante parce que j'ai une kalachnikov et grosse moustache. Vous comprenez? Parce que je montre photo du monsieur que je veux tuer. Et tu sais, il aurait pas pu faire, ouais, le cet enculé qui m'a violé ma femme ou je sais pas quoi. Non, il leur donne pas une ligne de dialogue, quoi.
Il prépare même un tribunal pour juger Cristobal. C'est là vraiment, genre, j'avais un fou rire parce que ça fait quand même 8 vignettes ou peut-être 9 qu'on les voit en train de genre, c'est maintenant. Et après, on les voit dans l'église en train de dire, il faut faire un tribunal pour Cristobal.
C'est le prêtre oui, qui n'a pas l'air comme tous les prêtres qui dit, nous allons le juger.
Qu'est-ce que ça peut bien me foutre?
C'est donc pour ça qu'il avait l'air un bandit, pas comme les autres prêtres.
On retrouve.
Ils courent partout, ils ont les gars et tout. Puis au bout de 8 vignettes, ils font. Mais il habite où d'ailleurs, Cristobal?
En fait, on comprend qu'ils sont en Ukraine, les mecs.
Mais pourquoi on n'aime pas Cristobal?
Je sais pas. On m'a donné un gun, je cours, enfin, normal quoi.
Dans le salon, on retrouve alors Alexandre qui continue lui de boire et parler devant tout le monde. Et alors, meilleure citation de tous les temps, il décide de boire aux Aztèques, à la poésie et à l'amitié.
Dans cet ordre
exactement, parce qu'on commence à lui expliquer que les Aztèques ils font si digne que l'amour et de la fierté, bref c'est un pensum pas possible de
c'est
brutitude débit, ouais. De BHL qui nous fait croire que c'est BHL sans que ça soit BHL,
parce que c'est pas que BHL en plus qui a écrit ces choses là.
On peut parler du co-scénariste.
Qui est le co-scénariste? C'est le papa de Raphaël Enthoven.
Non, on a monsieur qui a 4 consonnes et 3 voyelles.
4 consonnes, 3 voyelles et pas grand chose dans la tête. Et on a du coup Antoine, non comme Alexandre il s'appelle, qui finit par complètement bourré courser sa femme dans l'escalier. Alors deuxième tentative de viol.
Il avait tâché d'oublier.
C'est d'une méga violence, c'est-à-dire qu'il en a rien à secouer de cette meuf depuis le début, sa femme. Oui. Et là d'un coup il fait bon, tu sais quoi, je vais te violer. Et il la course dans toute la maison.
Et tout le monde se recule contre les murs en mode oh laissez passer le patron. Ouais.
C'est le patron, il fait ça une fois sur deux.
Et donc il arrache les vêtements de sa femme, qui évidemment lui fout une torgnole.
Il finit sur le toit.
Exactement, laisse-moi passer et
retourne au village.
on a quand même le droit à un plan sur les fesses en culotte de sa femme, évidemment.
Et on retourne sur le village où là, tu as l'entièreté. En fait, on comprend que avec cette scène, ils se foutent de la gueule du français et de Cristobal. Mais tu vois, en fait, c'est-à-dire qu'il fait dans ce film toute cette scène du village où tout ne tourne qu'autour de l'auteur français qui est là. Il mime la scène, il brûle une effigie de Cristobal.
Non, alors ça c'est avant, parce que à nouveau on a genre je sais pas combien de montages alternés, mais on les retrouve d'abord dans les cuisines d'un café où ils sont en train de dire ah ça va être bien l'enlèvement, ça va être bien l'enlèvement. À nouveau on retourne à la hacienda et puis après on les voit sur la plage comme tu dis ivre mort en train de brûler une sorte de mannequin.
Mais genre c'est leur 14 juillet quoi.
Mais oui c'est un truc de fou.
Quoi le 14 juillet mexicain d'ailleurs.
Le 14 juillet.
C'est le Cinco de Mayo.
Eh oui.
Et voilà vous l'avez appris ici.
Les Cinco de Cristobal.
Et si.
Et donc après un grand débat philosophique.
Un nouveau grand débat philosophique.
Avec Cristobal et Carlo. Alexandre propose donc de résoudre tous les problèmes qu'il a avec Carlo, parce que donc le vulcanologue, sismologue révolutionnaire, on sait toujours pas pourquoi il est dans cette maison, mais il y a une tension extraordinaire avec ce grand dialogue où on voit Cristobal en train de nettoyer son flingue devant tout le monde alors que personne ne réagit.
Personne ne mouffe quoi.
Carlo essaie de choper le flingue, Cristobal dit attention petit, tu vas te blesser. Et là il lui sort juste j'ai pas besoin de ça moi, je bande.
Tu t'as pas assez appuyé le B.
Je bande.
Voilà, alors on y est mieux là.
Qu'est-ce que tu veux que ça me foute?
Mais le problème c'est que... Mais le combat de boxe, il y a aucune raison légitime parce
qu'il y a absolument aucune. Mais
parce qu'à ce moment-là, Alexandre est même pas au courant ou en tout cas il a pas démasqué qu'il était.
Non, il veut juste créer une opposition de match.
Ivre,
de boxe.
Alexandre mais décide de se battre.
Je sais qu'il y a quand même une anecdote assez extraordinaire autour de ce match de boxe et je pense que Edouard va pouvoir nous en parler.
Oui, parce que Alain Delon aurait refusé pendant longtemps en fait que son personnage ait bien perdre son duel de
exactement.
Boxe. Voilà, ce qu'il a déclaré à Bernard-Henri Lévy, c'est que Alain Delon.
Fais-le avec la voix, ouais.
Il parle comme de lui à la troisième personne.
Alain Delon ne peut pas se faire mettre KO à la boxe par un gringalet comme Xavier Beauvois. Il a réalisé Des hommes et des dieux et c'est vraiment un film nul.
Il le dit, texto.
Non, mais c'est-à-dire que. 15 ans auparavant.
15 ans auparavant.
Personne ne comprend de quoi il parle.
Mais BHL, il a
c'est
dû.
C'est un film
batailler.
Visionnaire.
C'est-à-dire que même BHL.
C'est deux hommes et des Delon, hein, en l'occurrence.
Oh.
Il a dû batailler pour avoir cette putain de scène, il a même changé le scénar et c'est que quand il a dit qu'il quitterait le plateau, il a menacé de démissionner si Delon refusait de se faire battre.
Je viole vraiment l'actrice.
Delon finalement plus se fait battre entre guillemets à la déloyale, c'est-à-dire qu'il se prend un coup dans le ventre plus ou moins régulier, enfin et donc en gros il perd Delon, enfin du coup Alexandre arrive alors en mode Pieta Laure, soit Ariel Dombal qui se jette, qui commence à lui caresser le visage et donc pendant qu'ensuite Alexandre se fait soigner dans son bureau par un de ses meilleurs amis
avec un autre dialogue qui est extraordinaire parce que là c'est du 100% BHL qui règle ses comptes un petit peu, il dit son pote lui dit ça me rappelle la belle époque où tu cassais la gueule aux critiques qui osaient dire que t'avais pas de couilles. Et là tu fais ce connard de BHL qui se prend pour un lettré etc, qui résout tout sans violence et puis il peut pas quand même s'empêcher de mettre que et quand même c'était grosse burne hein. Et vous les avez vu mes burnes
hein. Coup le mec disait écoute Bernard Henry Alexandre.
Mais ce personnage est fantastique, c'est un employé du coup un employé slash l'ami d'Alexandre qui l'a suivi jusqu'au Mexique.
Jean-Pierre Calfon
et tu l'as pas entendu parler depuis le début du film et là d'un coup t'entends le mec avec un accent franchouillard qui... toi tu dis il est mexicain en fait. Comme tous les autres il ne parle pas. Et en fait ben voilà, non mais attends, tu lui as pété la gueule à lui hein.
Et ce qui est extraordinaire c'est qu'il refait quand même toute la bio d'Alexandre face à lui. C'est comme si je t'expliquais écoute Cyril, tu te souviens le jour où tu es né dans le sud de la France un mois de mars 92. Et il commence à lui rappeler toute sa bio. Et donc le mec commence à rappeler que en effet Alexandre, tu as toujours eu du talent, tu as toujours été brave, surtout quand tu étais correspondant de guerre.
Ouais,
et là c'est vraiment mais la dernière tartine tu fais mes mecs mais, oh, Dieu, mais... arrête de mettre Delon
joue toi-même
et un peu de couilles, tu parles de couilles et des couilles, joue toi-même.
Justement pendant cette scène il y a justement Jean-Pierre Calfon regarde un mur sur lequel il y a des dizaines et des dizaines de photographies en noir et blanc. Je suis persuadé si on met pause, on les regarde toutes une par une, il y a une photo avec BHL.
Il y a une photo de
certains genre
une photo... une photo de BHL avec Kadhafi en 2000 avant 2007 avant que ça parte en couilles.
On surprend alors Cristobal qui surprend également lui, Laure et Alexandre dans leur bureau.
Enfin, ils baisent.
Enfin, ils baisent. Enfin, surtout, genre parce que c'est censé être un peu subtil parce qu'ils baisent en nombre chinoise.
Oui.
Ça reste quand même un téléfilm RTL9.
Non, mais les scènes de cul, c'est vraiment des téléfilms érotiques. T'as Ariel Dombal qui bouge la tête comme si elle faisait un headbang. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Avec des mecs qui oscillent la tête comme ça.
Tu sais à quoi elle m'a fait penser? Elle m'a fait penser aux vidéos où les types mettent des AirPods et essaient de les faire tomber.
Oui.
putain, ça tient.
Hey, c'est approuvé, gros produit. C'est exactement ça. Mais toutes les scènes de cul sont un peu bizarres. Et en plus, tu as ce côté où la lumière fait qu'ils sont en ombre chinoise sur l'entièreté de la maison. Et t'as tout le monde dans la maison qui s'arrête pour les regarder leur ombre chinoise baiser.
Mais c'est le cinéma ce soir.
C'est exactement ça.
C'est comme Alexandre qui s'est toujours pas rendu compte que sa femme couchait avec le vulcanologue révolutionnaire. Mais on trouve du coup justement sa femme qui a rendez-vous avec le vulcanologue révolutionnaire dans une église.
Tu vas devoir partir, c'est ça? Puis tu pourras plus revenir, mais ça te fait souffrir. Et je pars avec toi.
Fous-moi le cœur!
Qu'est-ce qu'il y a?
Rien! J'en ai rien à foutre de ce match de boxe, j'en ai rien à foutre de ton mari, laisse-moi!
Et moi?
Et moi? Et moi, si je... vraiment rien compris.
Tu m'as jamais aimé?
Si, peut-être. Au début. Quand vous venez d'arriver. Tu es si beau.
Alors, qu'est-ce que tu veux?
Rien! Je sais même plus qui je suis, je sais même plus ce que je dois faire. C'est fait de moi un révolutionnaire de salon, un pantin grotesque. Je crois qu'ils ne le savent pas, les autres.
Mon chéri.
Ne m'appelle pas mon chéri! Et après avoir fait l'amour, Alexandre confie à Laure que désormais il va pouvoir réécrire. Et il va pouvoir, je cite, les écrire maintenant tous ses livres qui lui échappaient comme du sable entre les doigts. Et de nouveau, Laure, bien évidemment, ils viennent de faire l'amour. Alexandre, pudiquement, a mis une petite robe de chambre.
Ouais. Elle est nue. Et il lui claque quand même bien plusieurs fois le cul. Hein. Donc, je peux pas m'empêcher d'imaginer BHL. Donc, il filme sa femme en mode n'hésite pas à lui claquer le cul. Hein,
alors, on va la refaire parce que là, t'as un doigt dans ma femme quand même. Ce serait bien qu'on.
Alors, je me souviens plus si c'est exactement.
Je n'ai pas un doigt. Alain Delon, hein.
je me souviens pas si c'est exactement à ce moment-là, mais pendant ce temps, pendant cette nuit, Cristobal également.
C'est après.
Alors, tu spoil.
Non, en revanche, on se retrouve à ce moment-là avec Laure qui fait une révélation. Un truc qu'on soupçonnait depuis le début, c'est qu'en fait, on pensait que Laure arrêtait pas de dire je le connais depuis
ça
10
fait
ans.
10 ans. Je vous connais, vous, non?
On apprend qu'il y a 10 ans, ils se sont déjà rencontrés. Et en fait, Laure était tombée totalement croque-love d'Alexandre. En fait, qui était un auteur qui lui avait alors offert un stylo pendant une dédicace.
En lui disant qu'il écrivait avec sous les bombes à Hanoï.
J'ai pas refait la voix tout à l'heure.
Les opticiens.
Et alors là, franchement, si tu sais, sur un moment, je pense que l'ONU, ils ont une liste des gens qui peuvent avoir le prix Nobel de l'humanité. Toi, genre Bernard-Henri Lévy, après une phrase pareille, tu dégages.
Et c'était avant la Syrie, tout ça. C'était avant tout ça.
Il écrivait avec sous les bombes à Hanoï.
Et lui avoue qu'il l'en donnait à toutes les meufs à l'époque.
Exactement. Mais ça ne l'empêche pas de tomber totalement in love.
Il y en a un autre qui se rend compte que Laure et Alexandre, ils ont écrit parce que tout le monde. Alors, comme c'était ouvert et que t'as les ombres chinoises, tout le monde le sait, mais il y en a un qui en sait le plus. C'est Carl Zero, qu'on n'a pas vu depuis quelques scènes.
Et il manque.
Ah
ouais. Son jeu manque.
et d'ailleurs.
Mais de quoi tu parles?
Mais je ne comprends pas.
Et là, il joue la déception amoureuse à la perfection. J'étais amoureux de toi. Mais tu nous as jamais montré cette émotion. Comment on le devine?
Tu ne montres aucune émotion depuis le début de ce film, Carl.
Et il faut savoir qu'en fait, il y avait quand même deux personnes qui devaient avoir ce rôle. Au début, c'était soit Carl Zero, soit Gypsy, qui est le Jack Russell qu'a mon frère. et donc Gypsy
était indisponible.
Ne l'a pas eu de très peu. Hein, donc.
Donc là, on a eu du prêt à faire Weinstein avec Carl Zero, justement, qui lui dit normalement, ce sont les producteurs qui manipulent les actrices.
Et c'est en cela que ce film peut maintenant devenir peut-être un grand classique et un grand film de cinéma.
Peu, mais ne va pas.
Parce qu'on le signalera jamais assez, mais sur le site de Bernard-Henri Lévy, on peut acheter le film qui est accolé avec un documentaire qui a parlé des retombées de ce film. Et il y a marqué, c'est Bernard-Henri Lévy, on suppose qu'il a écrit. Cela a raté son départ en tant que film commercial, mais cela commence bien pour un film culte.
Carlo décide alors enfin de quitter cette maison de fou et de capitaliste. Alexandre lui fait alors un dernier discours dans lequel il lui explique qu'il ne lui en veut pas pour la boxe, il ne lui en veut pas pour le coup de pied dans l'estomac, il lui en veut pas pour le fait d'avoir couché avec sa femme. En revanche, il est furax à l'idée que Carlo lui ait fait croire que Laure s'était jetée sur lui et avait couché avec lui. Et là, boum, patate.
Je déteste le mensonge.
Alain Delon déteste le mensonge. Alain Delon te colle une droite.
Tu souffres. Mais il y a un côté, en fait, tu vois, je sais pas si tout le monde a vu cette vidéo de Bernard-Henri Lévy qui s'est fait entarter.
Il s'est fait entarter bah, on a eu une vingtaine de fois.
Mais une de ses premières où il est jeune et où il demande à ses potes de tenir le mec en disant que je vais te casser la gueule. Et en fait, tu te rends compte que c'est juste un minable qui a pas de couilles, qui se la pète en disant voilà les grands mots, etc. Et en fait, là, c'est encore plus ça. C'est-à-dire que Alain Delon, qui est visiblement qui a gagné sur tous les tableaux face à Carlo, il lui fait bah écoute, je vais te casser la gueule une dernière fois. En plus, tu vas même pas répondre. Je vais te mettre une grosse droite comme un gros bâtard et je blème grosse patate dans ta gueule.
Et en plus, genre, si on suit une logique de personnage, genre Carlo il répond. Mais là, comme c'est Bernard-Henri Lévy qui casse la gueule à un critique, c'est vraiment genre le mec il limite merci. Et Carlo s'en va. Alors que...
il part penaud en traînant sa valise.
Penaud, mais après il est en mode genre je vais tous les tuer parce qu'en effet Carlo repart retrouver les 4 ou 5 révolutionnaires qui attendent toujours dans un café. Ils attendent toujours dans un café autour d'une table. Mais ça
y est,
trop bizarre, il arrive.
En gros, il arrive dans le café et là t'as un mec qui le prend à partie, genre qu'est-ce que tu fais là, c'est fermé.
Alors qu'il est déjà au milieu de la pièce avec tout le monde le connaît, y compris le mec qui lui dit c'est fermé. L'autre tu fais ça va, basta, et il s'assoit juste là.
Tu le dis en mode comme ça, mais en fait c'est filmé, tu sais, en mode POV. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le mec qui s'adresse droit à la caméra en mode genre c'est fermé, c'est éphémère, vous n'avez pas le droit de rentrer. Il pousse tout le monde, il roule une galoche à la meuf, tu sais, oui. Tombe la table.
Et tout le monde le connaît. Et alors, personne des gens qu'ils connaissent, ne s'est levé pour lui dire ben non, en fait, c'est notre pote.
Exactement.
N'importe
donc,
quoi.
Il se décide enfin, après 1h35 de montage alterné sur de la musique à la Carpenter, il décide enfin d'aller kidnapper Cristobal et débute alors un extraordinaire montage alterné entre les révolutionnaires. Donc, qui arrive, donc ça fait quand même 1h30 qu'on les attend sur ta.
Qui arrive pour prendre d'assaut le bateau de Cristobal qui était pas loin,
alors qu'ils sont quand même tous ivres morts sur le bateau. Hein, donc,
oui.
Mais c'est quand même un montage alterné. Edouard, avec quelles autres images?
Cristobal qui s'amuse à foutre des claques sur des boules. Enfin, sur un boule, et ça n'a aucun sens.
Il y a une question, c'est à qui appartient ce boule? Est-ce que c'est la maîtresse de la maîtresse de maison? C'est la maîtresse de la maîtresse. D'accord, c'est bien
non,
ça.
Mais ça n'a aucun sens.
C'est celle qui met des torgnoles à la mexicaine dans la cuisine.
Exactement.
Ah,
ok. Du coup, elle se prend les mêmes sur le cul et elle adore ça.
C'est vraiment de très très jolies fesses, ça, on peut lui reconnaître.
Mais
il lui met des trucs, mais genre mon gars, ses doigts c'est des bites déjà. Il met des trucs, c'est vraiment un moment je crois qu'il ferme le poing quand il tape les fesses.
Il lui claque le cul sans raison, parce qu'en plus genre c'est même pas comme si on avait vu une attirance entre eux, genre d'un coup.
Si, parce qu'il couche avant, juste avant.
Oui, mais quand même,
il essaie de baiser, tu comprends que bon, il termine un peu vite.
On a quand même droit à 4 minutes de plan sur elle nue au début sur Cristobal, mais ça n'a aucun sens quand même. Alexandre sauve alors Ariane d'une tentative de suicide au dernier moment. Oui. Et Cyril, il lui sort une phrase alors merveilleuse, qu'est-ce qu'il lui dit?
Et il lui dit qu'un ami à lui a dit un jour, on se suicide toujours trop tard.
Voilà.
Donc c'est trop tard, donc ça ne sert à rien, reste avec moi.
T'aurais dû te foutre en l'air il y a déjà 6 mois, connasse.
Et juste après, c'est ça, juste après, il lui explique qu'il va rentrer à Paris.
Exactement.
Et qu'il va vivre, parce qu'il lui reste 5-10 ans à vivre, il veut s'installer avec Laure. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que je vais faire moi? Et grosso modo, bah, j'en ai rien à foutre.
Carlo, tu poses même pas la question. Il dit, donc moi je vais vivre désormais ma vie avec elle, à qui j'ai même pas posé la question en fait. Et elle lui dit, il lui sort genre, mais je suis sûr qu'une fois que je serai parti, je suis sûr que Carlo, il t'a dans le viseur, il va vouloir venir.
Il lui dit même,
mais il la baisse devant toi, qu'est-ce qu'il te faut de plus, bordel?
Il lui dit même, un jour, je t'expliquerai. Mais étant espèce d'enculé, tu me largues pour elle, mais jamais je veux te revoir. Non, je viendrai, je t'expliquerai.
En plus, c'est tellement fait à base de genre, mode, c'est tellement romantique comme geste que t'es en train de faire, ce que bon. Laure, définitivement, alors, en couple avec Alexandre, il se roule un gros patin. Elle repart avec Cristobal en bateau parce qu'elle doit regagner Paris. Et alors là, Edouard, qu'est-ce qui se passe?
Et là, enfin de l'action, bordel. Et bah les fameux révolutionnaires, ils attaquent Cristobal.
Après une heure et demie de tension.
Alors, de tension alternative. C'est-à-dire que le film est pas construit, donc t'as vraiment genre une demi-heure où il parle de conneries.
La scène d'action est relative. Okay.
Non mais oui, c'est ce que j'allais dire. C'est on passe du film érotique au film d'action raté. du film érotique raté au film d'action raté, avec deux gens qui tirent toutes les 30 secondes sur les uns les autres.
C'était censé être une prise, un truc d'enlèvement.
Et puis Laure est tuée sur un ralenti. Et surtout, en fait, enfin, c'est horrible parce que bon, Ariel Dombal n'est pas une très bonne actrice. Du coup, le film est tellement mal écrit qu'en fait,
oui,
t'en as rien à foutre qu'elle meure. Du coup, juste tu regardes, elle a du sang sur elle, tu fais OK.
Elle a du ketchup sur elle.
Souvenez-vous de moi.
Non. Mais cette scène d'assaut, elle est fantastique.
Et là, j'ai pensé à Marion Cotillard dans Batman, et je me suis dit. rivalité.
Ouais. Sauf que Marion Cotillard était quand même censé être filmé, monté, réalisé par Christopher Nolan. Donc, plus ou moins, je suis team Marion Cotillard à base de genre.
Alors que
quand Christopher Nolan, il a quand même choisi une prise. Là, c'est quand même, c'est Bernard Henry.
Alors finalement, est-ce que ce film n'est pas si mal?
Alors que Ariane Montbal était dirigé, réalisé, monté et monté par Bernard Henry Lévy.
Oh! Ouais, bravo. Alors, souhaitant partir, en fait, faisant faire un tour en Montgolfière, ah, il ne sait pas que Laure est morte sur le bateau. Alexandre apprend au moment de son décollage.
T'es un Mexicain.
Il y a une Laure qui vient de mourir, elle a tenu dessus dans l'épaule.
C'est la première fois qu'il parle du film, quasiment. Et là, il dit oui. Il lui annonce qu'elle est morte. Et là, il dit dégagez, dégagez!
Au match retour, Paris vient de prendre 6 buts.
Il y a Cyprien qui vient de passer les 5 millions d'abonnés. C'est là où il y a divergence. Qu'est-ce que vous avez compris? Parce qu'il faut dire objectivement ce qui se passe. Donc il arrête pas de tirer sur sa manette. Le montgolfier,
il crie une fois.
Il arrête pas. Non, il crie pas une fois. Il crie à mon avis 12 fois d'affilée.
Deux fois, il crie.
J'ai entendu beaucoup de.
Il crie, il tire sur sa montgolfière et sa montgolfière monte tellement haut qu'elle explose et puis elle disparaît. Ouais, complètement.
Il y a plus rien.
Avec un effet spécial magnifique.
Il s'est suicidé ou il s'est pas suicidé?
Là, tour de table.
Métaphore grandiose de du lien qui l'unissait avec Laure meurt.
Sublimé, quoi.
Et, ah ouais, c'est magnifique.
L'artiste
c'est...
disparaît, quoi.
L'artiste disparaît,
consumé
il ne peut plus vivre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que en fait, ce n'est pas un mauvais effet spécial, c'est juste la montgolfière disparaît.
Moi, je suis plutôt, je ferai un parallèle avec Le Petit Prince, je suis team suicide, tu vois. Mm-hmm. Moi, je pense que comme Le Petit Prince, il a décidé de se suicider.
Ok.
Parce qu'en fait, il crie deux fois, et il y a un truc dans le film où il t'explique que quand Cristobal arrive et part, il tire trois fois au pistolet.
C'est vrai.
Donc là, j'ai essayé d'intellectualiser BHL, j'ai fait un gros effort sur moi-même. Et il crie deux fois, et la troisième fois, il crie pas parce qu'en fait ça explose. Et on comprend qu'en fait il fait exploser sa machine. D'accord. Je sais pas comment il fait, il doit y avoir une trap card ou un bouton rouge.
Oui, parce que
n'ai jamais appuyé sur ce bouton.
Il y a aucune raison que ça explose en plus.
Oui, voilà.
Moi je suis team BHL est un gros con.
Ouais.
Et donc Alain Delon qui n'est pas BHL, ouais. C'est quand même ce qui est répété pendant tout le film, c'est genre c'est moi mais ce n'est pas moi. Pour moi, il essaye de monter, il veut aller plus haut. Et en fait, en allant plus haut, il explose comme un con.
Sky the limit.
Sky is the limit totalement.
C'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire que voilà, il a oublié que Sky était the limit et que du coup, tu ne peux pas aller plus loin que ça.
Et c'était donc ce chef-d'œuvre du cinéma, celui qui nous a fait tous aimer le 7ème art. Un petit dernier tour de table, Edouard, qu'est-ce que tu as pensé de ce film?
Et comme je le disais, c'est un mauvais film, c'est raté. Carl Zero est le pire acteur de tous les temps. Il parle très bien son nom. Le montage son, c'est une horreur. Mais si je devais résumer ce film, c'est un crossover entre le plus mauvais de la nouvelle vague et le plus kitsch du Seigneur des Anneaux.
Oh.
Voilà. Ah. C'est
parce que tu l'as dit tout à l'heure hors antenne, une comparaison.
Exactement.
Qui était assez
juste. En fait, ce film me fait beaucoup penser à ce que dit Legolas tout le long du Seigneur des Anneaux. Un soleil rouge se lève, beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Et puis on peut faire la petite analogie, je sais pas, avec Minas Tirith pour leur espèce de maison coloniale. C'est que ça pendant 2 heures. Bon, donc voilà, c'est un peu ça. Mais bon, c'est raté. c'est raté. J'essaye de dire tout ce que je peux, mais c'est raté.
Et toi, Cyril?
Et moi, je suis assez d'accord avec la première critique qui a été faite par Edouard au début, c'est-à-dire que on m'avait décrit ça comme un film terrible. Et finalement, on peut s'en accommoder. Avec un effort certain,
on peut,
mais on peut, mais on va pas. Donc non, il y a beaucoup de choses à revoir et on va pas les revoir finalement. Mais je pense que c'était à voir une fois. Et une fois qu'on l'a vu, on se dit que certains films qu'on a pas aimé ou qu'on trouvait nul, ça peut passer. Il y a des jours avec et des jours sans.
On vient de voir quand même un film qui se veut poétique et grandiose. Et en fait, c'est pas mieux qu'un téléfilm érotique sur NT1 et ça ne dépasse pas le degré zéro. C'est bâclé, c'est mal foutu.
C'est comme ça la prétention, c'est qu'il persuadé et encore aujourd'hui il est persuadé d'avoir fait un grand film.
C'est ça, et c'est aussi un film pour moi finalement qui est assez raciste, quoi. La vision qu'il a de ce genre de pays, en fait, c'est à l'image de ce que lui se voit comme étant un grand héros, alors que finalement, tu vois, il considère les populations locales comme random pauvres qui sont juste des débiles mentaux. Et je pense que moi, je terminerai juste ma critique sur ce que disait Claude Chabrol, tu t'en parlais au début, Edouard, qui disait à propos de ce film, là c'est très intéressant comme cas, c'est très mauvais, je le connais un petit peu, il parle de Bernard-Henri Lévy. parce que nous étions ensemble à l'avance sur recette. Il est loin d'être bête. Il est intelligent et parfois même subtil. Mais il a fait le film le plus con de l'année. Le plus grave, c'est que tout le monde le lui a dit, mais il refuse de le croire. Il pense qu'il en avance. L'auteur de L'invasion des tomates géantes pensait peut-être qu'il était un génie, mais lui, il l'a jamais dit.
Est-ce qu'on peut pas applaudir Claude Chabrol?
Ouais, bravo Chabrol.
Cinéaste absolument énorme et immense, et j'espère qu'on pourra faire d'ailleurs un film de Claude Chabrol dans cette émission. Moi, quant à moi, je pense que ce film était l'équivalent en fait d'un vaccin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu ça, en fait, on peut voir toutes les merdes, c'est bon, on est immunisé parce qu'on nous a infligé le pire et c'est bon, notre corps est habitué. Peut-être un petit dernier tour de recommandations. Donc je repars depuis le début. À toi, Edouard, est-ce que t'as une petite reco?
Bien sûr. Donc très difficile de recommander un film après ce qu'on vient de voir. Donc on va rester sur des gros cons qui font des mauvais films où c'est raté du début à la fin, avec La fille de nulle part de Brissot. Hein, surtout, ne regardez pas ce film.
Pour ma part, je vous recommanderais deux choses. Je vous recommanderais d'aller voir les productions ougandaises. T'as des trucs. C'est du nanar, mais c'est fait avec cœur, avec du. Donc c'est nul, mais c'est rigolo parce que c'est le bon nanar. C'est-à-dire que c'est les gens qui se donnent, qui ont envie de faire des films.
Chanson. Amin Adadada, c'est mon business.
Nine, pas celui-là. Donc voilà, c'est plaisant à voir. Et les mecs ils ont du cœur pour le coup. C'est le genre de bon nanar qu'il faut voir. Cyril.
Moi, ma recommandation, c'est le film m'a fait penser à ça tout le long. C'est les sagas estivales. Les sagas que quand j'étais petit
avec
en vacances, c'était voilà, Dolmen, les cœurs brisés,
Zodiac,
ce genre de Zodiac.
Mais non, mais carrément Dolmen.
Bah ouais, mais
Dolmen, alors, c'était la saga du siècle.
Le problème, c'est que Dolmen, c'est en Bretagne, il fait moche tout le temps. Là, il fait beau. Mais
ouais,
moi,
mais
j'avais l'impression d'être.
Le pitch, c'était extraordinaire. C'est que c'était quand même des Dolmen qui pleuraient du sang.
Voilà. Ben moi, franchement, j'ai pensé à ce type de saga pendant le film. Allez-y. On n'est pas en été, mais il n'y a pas de saison pour ce genre de truc.
Et bien, pour ma part, ça sera. On restera dans le cinéma. On restera dans le cinéma contemporain et on restera dans le couple. Le BHL Ariel Dombal, puisqu'Ariel Dombal a réalisé un film l'année dernière, comment dire, un ovni ou un ofni comme on dit dans le cinéma, qui s'appelle Alien Crystal Palace. Alors je n'ai pas de mots pour vous décrire ce que représente Alien Crystal Palace, si ce n'est allez-y, cliquez, streamez-le, n'ayez aucune pitié pour ça. Vraiment, même Adopi vous demandera de le faire, il n'y aura pas de souci. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de bande dessinée, Raphaël.
Et oui, on parlera de L'homme gribouillé et on se retrouve dans un mois pour un film.
Alors, ça y est, allez, enfin. On parle de quel film dans un mois?
On parle d'Affreux Sale et Méchant. J'adore ce film.
Le 28 février, on se retrouvera pour parler du film d'Hector Escola. Merci Edouard, merci Cyril,
merci
Raph d'être venu.
Merci Gaspard.
Pour avoir enfin parlé cinéma dans cette émission, parce qu'on a beau, on a parlé de Jean Renoir, on a déjà parlé de Martin Scorsese.
Mais le cinéma avec un grand S.
Enfin, merci également. Exactement. Merci Cyril.
Je te déteste, vraiment un sale con de nous avoir imposé ça.
N'oubliez pas de partager, on est sur Instagram, Facebook et compagnie, on sera jamais sur Twitter parce qu'on n'y croit pas. Mm. Et on vous fait des énormes bisous, à la semaine prochaine.
Ciao.
Bisous.
Un formulario de consuelo. Con una foto 2x4 que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero. Con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. ¿Quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño. Oh, oh, oh. Buscando visa para un sueño. Buscando visa la razón de ser. Buscando visa para no volver. Buscando visa para un sueño. Oh, oh, oh. Buscando visa para un sueño. La necesidad, buscando visa, que rabia.